Merci Tiphaine, bon week-end. Se disait né pour vagabonder, voir et sentir tout ce qu'il y a à voir et sentir au monde. Victor Segalen disparaissait il y a 100 ans et c'est Muriel Détry, Dominique Lelon et Morissette Berne qui nous le font lire aujourd'hui.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Ville au bout de la route et route prolongeant la ville, ne choisis donc pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre bien alternées, et c'est Victor Segalen qui le dit. 100 ans donc après la disparition du poète, écrivain, archéologue, médecin, dans l'ordre qu'on voudra, un peu plus d'un siècle après les immémoriaux, stèles, René Leys, peinture, Tibet, Aude, après New York, San Francisco, la Polynésie, la Chine, le Japon, furtivement, Djibouti, Moscou, Java, Brest, Huelgot. Que n'aura-t-il pas été dit de Victor Segalen ? C'est la question que posait en juillet 2018 un colloque à Cerisy, dont vous étiez en Segalénienne assidue, Muriel Détry, maître de conférence à Paris 3. Paraissent aujourd'hui aux éditions Hermann les actes du dit colloque et un article vôtre creusant un peu plus encore vos lectures de peinture, ce recueil de poèmes né en Chine. Je dis creuser un peu plus, hein, c'est que le sillon est bien marqué de votre empreinte, Muriel Détry. Hein, votre thèse lui était consacrée, vous y revenez dans les cahiers de Lerne, portant sur Segalen en 1998, dont une édition remodelée paraît aujourd'hui. Y revenez encore aujourd'hui pour ce colloque de Cerisy. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez même en train de préparer une édition critique de peinture à paraître prochainement. Qu'est-ce qu'un tel recueil vous a donc fait pour qu'il vous ait fallu le lire et le relire et le relire encore ?
Alors, je suis venue à peinture parce que lorsque je faisais mes études de lettres, j'ai fait en même temps des études de sinologie, j'ai appris le chinois, et peinture est une œuvre que Segalen a conçue en Chine et qui se présente comme inspirée par la poésie chinoise dont Segalen tente par les mots seuls, puisqu'il n'y a pas d'image, hein, de recréer les visions, les spectacles que propose la peinture chinoise par les mots. Je me suis donc intéressée en priorité au rapport que Segalen entretenait avec la peinture chinoise, ce qu'il en avait connu, ce qui l'avait frappé dans cette peinture et qui est représentatif pour lui de cette esthétique du divers qu'il recherche en Chine, à savoir un choc avec une forme d'altérité, de nouveauté, d'inouï, d'inédit par rapport aux habitudes françaises. Donc il s'intéressa à la peinture chinoise parce qu'elle ne repose pas du tout sur les mêmes fondements que la peinture occidentale, ni perspective, ni encadrement fixe sous la forme d'un tableau. C'est une peinture mouvante qui se déroule sous forme de rouleau et Segalen a tenté de recréer cela avec les mots. Donc le rapport avec la peinture chinoise a été au départ dans ma thèse mon souci premier, hein. Je voulais démêler un peu tout ce que Segalen avait pu connaître de la peinture chinoise et ce qu'il en avait transposé dans une œuvre qui, elle, n'est pas une peinture mais une œuvre littéraire.
Alors, on va y revenir, bien sûr, hein, tout à l'heure. Recueil que vous relisez, Muriel Détry, sous le signe du bonimenteur, rappelant si besoin était qu'il y aura donc encore à dire sur Segalen en 2019, comme le fit en son temps hein, la publication de sa correspondance en 2004, ça c'était chez Fayard, plus de 1500 lettres, dont vous publiez Dominique Lelon et Morissette Berne chez Gallimard, une sélection serré cette fois, hein, essoré même à 200 lettres, hein, de Bordeaux, il a 20 ans, il est étudiant en médecine, à Huelgot où il meurt tragiquement à 41 ans, en passant évidemment par Tahiti et les expéditions en Chine. Il y a là les lettres à ses parents, surtout au début, hein, on verra qu'il s'en éloigne progressivement, en tout cas par la correspondance, à sa femme Yvonne surtout, la tout aimée, à son fils, bientôt à ses amis, à Hélène, hein, l'âme sœur, l'âme claire des dernières années, à ses maîtres, Debussy, Claudel, Jules Gautier, Huysmans même dans les toutes jeunes années. Cette anthologie-là, cette nouvelle anthologie hein, qui tranche, qui essore, donc qui élimine, je suppose, quelle Segalen est-ce qu'elle choisit de raconter et puis sans doute de taire, puisqu'il s'agit aussi de renoncer à certaines de ces lettres.
Ce choix, c'est d'abord une élimination par rapport à la correspondance générale qui était parue en 2004.
Que vous avez apporté avec vous, qui est à côté de moi, qui est un bloc colossal qui est arrivé dans une valise à roulettes, d'ailleurs.
Voilà. Et cette correspondance, finalement, j'ai grandi avec elle. C'était un certain nombre de dossiers dans le bureau de ma mère. Et ceux qui s'intéressaient, qui étaient peu nombreux à l'époque à l'œuvre de Victor Segalen, venaient consulter ces dossiers pour des éditions critiques ou des... Voilà. Et un jour, ma mère m'a dit, mais il faudrait quand même un index pour aider tous ces gens qui gravitent autour de Segalen. Et je m'y suis mise, et là, je suis entrée en correspondance.
Alors Dominique Lelon, il est peut-être judicieux, on l'aura compris, hein, de rappeler que vous êtes la petite fille de Victor Segalen, de Victor et Yvonne hein, Segalen, et la fille donc de Dany Joly Segalen, qui a donc, elle, commencé hein, par patiemment rassembler cette correspondance, œuvré à la publication de l'œuvre de son père, hein, dont je rappelle d'ailleurs que seuls 3 ouvrages hein, furent publiés de son vivant, travail que vous avez poursuivi. C'est à elle hein, que ces lettres d'une vie, puisque c'est le titre de ce recueil, sont dédiées, c'est donc par elle que nous commençons.
Vous allez nous dire qui était votre père, par conséquent, puisqu'il est encore un peu ignoré du grand public.
Eh bien, vous avez prononcé le mot caractère chinois, et je pense que vos auditrices ne comprendront pas pourquoi vous parlez de la Chine. Et je dois vous dire en 2 mots que Victor Segalen était médecin de marine. Il avait, au début de sa carrière, fait le tour du monde en vivant 3 ans à Tahiti à bord de son bateau. Et en 1909, il est parti pour la Chine, où il a rencontré Claudel, qui était encore là pour quelque temps. Et puis, il a fait de grands voyages d'exploration en Chine, et il a écrit là-bas ses plus importants poèmes, qui sont les stèles que vous avez là sous les yeux, et peintures équipées qui viennent d'être publiées et réunies dans ce livre du club.
Brève présentation, donc. Hein, au-delà de l'exotisme des années 50, c'est la voix donc d'Dany Joly Segalen au micro de Claudine Chonnet, pour les auditrices donc de Rendez-vous à 5 heures, hein, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est ce qu'on entend là, c'est-à-dire donc la voix de votre mère, Dominique Lelon. Elle est la seconde hein, des 3 enfants.
Elle est née en 1912. Même temps au moment de la parution de Stèle.
En Chine, donc.
Oui.
Elle a 6 ans lorsque son père disparaît. Alors, quelle aura été la place du père dans son histoire à elle et puis dans la vôtre, Dominique Lelon? Comment, par quoi est-ce qu'il était présent dans la maison?
D'abord, j'aimerais rappeler le rôle de ma grand-mère qui, après la mort de son mari, tragique, a su mettre à jour les œuvres qui étaient prêtes à être publiées et l'a fait pendant un certain nombre d'années. Puis ma mère a pris sa suite et elle s'est risquée plus, peut-être, à publier des inédits qui n'étaient pas forcément aboutis. Et puis elle a surtout rassemblé cette correspondance. Car les lettres de Victor Segalen, il fallait aller les chercher.
Chez les destinataires, bien sûr.
Voilà. Alors, il y avait les lettres familiales qui avaient été gardées, car à l'époque, on gardait les lettres. Et puis, les
brouillons
autres,
même, parfois.
Oui. Les autres, alors, beaucoup d'amis proches ont spontanément donné les lettres qu'ils avaient. D'autres les ont prêtées pour les copier ou puis plus tard les photocopier. Et il a fallu, d'après les lettres des destinataires en question, les lettres reçues, ma mère allait chercher les lettres de Segalen. Voilà.
Je voulais revenir juste à votre enfance, à vous, Dominique Lelon, sur la place qu'il occupait. Quelle était la présence de Segalen durant votre enfance et
C'était le bureau de ma mère, dans lequel elle travaillait beaucoup sur les manuscrits. Et Segalen, c'était le père de ma mère, mais c'était pas tellement mon grand-père.
Ce qu'on entendait tout à l'heure, hein, donc, qui datait de 55, hein, montrait bien donc, que Segalen était considéré, alors évidemment déjà considéré à l'époque, mais si on écoutait l'émission en entier, hein, la journaliste explique au début qu'au fond, en 55, il y a comme ça une petite troupe de fanatiques, lecteurs de Segalen, et puis quelques savants, quelques experts. Et ça s'arrête là. Donc l'idée en 55, justement, avec cette publication, c'est d'essayer de l'ouvrir un peu au plus grand public par la poésie, par Stèle notamment. Mais elle rappelle bien que, au fond, on le connaît encore assez mal, hein. Et que Victor Segalen, c'est ce que dit aussi le colloque de Cerisy, hein, Muriel Détry, ne trouve sa vraie place finalement que à la fin du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il aura fallu attendre pour qu'il trouve justement une vraie place dans la littérature ?
Comme le disait tout à l'heure Dominique Lelong, il a d'abord fallu que l'œuvre soit éditée, car c'est une œuvre énorme, hein, de volumes aujourd'hui dans la collection Bouquin. Une édition est en préparation dans la Pléiade qui fera aussi deux volumes. La correspondance, on vient de le dire, est également énorme. Donc tout cela a émergé petit à petit, et pour que vraiment la place de Segalen soit reconnue, il fallait déjà que son œuvre soit connue. Par ailleurs, il y a l'énorme importance chez lui de l'exotisme, hein, bien sûr au sens particulier qu'il a donné à ce terme, mais aussi au sens plus général d'ouverture sur des mondes autres, dont la Chine, qui fait de son œuvre une œuvre qui pendant longtemps a paru elle-même lointaine, distante, difficile d'accès. Donc là encore, il a fallu de nombreuses études faites par des universitaires, des éditions avec des appareils critiques, pour que peu à peu, on comprenne que cette inspiration, on va dire lointaine et essentiellement, enfin en grande partie chinoise, mais elle est aussi polynésienne avec la première œuvre qui sont les Immémoriaux. Il a fallu attendre donc que cet aspect déroutant soit assimilé pour qu'on puisse revenir à l'œuvre de Segalen et la situer aussi dans son temps, dans l'histoire de la littérature française, dans son époque. Hein, il a vécu une quarantaine d'années, mais c'est une époque qui est un tournant, hein, dans l'histoire de la France, la fin du 19e, le tout début du 20e siècle. Et aujourd'hui, donc, on est enfin en mesure reprendre l'œuvre de Segalen en reconsidérant tous ses aspects. Le fait que Segalen est aussi un homme de son temps, mais le fait qu'il a été aussi un homme des lointains, hein, qui est allé chercher au loin son inspiration, et qu'il a été un précurseur, car c'est la réception de Segalen aujourd'hui qui permet de comprendre à quel point ses idées, ses œuvres, les formes qu'il a utilisées ont été un ferment, ont fécondé tout un pan de la création littéraire, mais on peut même dire artistique, française et même au-delà de la France.
Qu'est-ce que les lettres, justement, Morissette Berne peut-être, qu'est-ce que ces lettres finalement rassemblées, hein, tardivement rassemblées, hein, alors je sais que c'était un travail de très très longue haleine, un travail de fourmi, mais qu'est-ce que ces lettres auront corrigé, alors peut-être du roman familial, mais aussi corrigé de la compréhension et de la réception de Segalen.
Ben, c'est-à-dire que la correspondance, c'est presque le support de toute le... On trouve tout dans la correspondance, depuis les éléments biographiques jusqu'à le travail d'écriture, et le travail d'écriture se mesure également à la lecture et à l'étude des divers états des manuscrits, mais presque quotidiennement, il y a presque quotidiennement une lettre qui explique ce qu'il est en train de faire.
Muriel Détry, pour vous, la connaissance de cette correspondance, parce que, alors on va évidemment y venir, mais c'est vrai qu'on trouve dans la correspondance nombre de projets en gestation. Il annonce sur quoi il est en train de travailler, en particulier d'ailleurs dans les lettres qu'il adresse à sa femme, mais pas seulement. Il lui adresse d'ailleurs des petits bouts, des morceaux de textes à venir qu'il lui demande de recopier. Donc on suit aussi bien la genèse de nombre de ses projets. Qu'est-ce que cette correspondance vous a enseigné à vous, qui vous êtes intéressé tout particulièrement à ce recueil peinture dont on parlait tout à l'heure?
Alors, justement, dans la correspondance à propos de peinture, on voit la genèse de l'œuvre, hein, comment l'idée germe en Chine même, comment elle se développe, comment Segalen se fait le critique de sa propre œuvre en la présentant souvent avant même qu'elle soit écrite à ses correspondants. Et puis, il y a une volonté de maîtrise, hein, sur l'œuvre de bout en bout, depuis bien sûr la conception, l'écriture, la correction, mais aussi l'édition, hein, et cela enfin Maurice Edberne pour en parler mieux que moi, mais à travers même la préparation des manuscrits qui eux-mêmes sont conçus comme des œuvres, hein, avec des apparaîtres, avec des dédicaces, avec une couverture dessinée. Mais je peux laisser Maurice Edberne en parler puisqu'elle connaît très très bien le fond des manuscrits à la Bibliothèque nationale dont elle s'est occupée.
Mais justement, oui, ça c'est un dans peinture, dans le second manuscrit de peinture, qui n'est pas relié à la chinoise, mais à l'occidentale au parchemin, il y a de Victor Sevagalen paru ou apparaître. Et c'est de sa main. Et énormément de pages comme celle-là, avec des préparations, des pages de titres. Annie Jolie disait, il a une idée, il fait une page de titre. Et le livre là où il parle de sa profession de foi, qui est que il faut arriver à la transsubstantation artistique par la cristallisation d'un texte et le...
C'est la... Alors on peut suivre ce chemin jusqu'à la sortie du livre parce que ensuite c'est le cas en particulier pour peinture. Peinture va être édité en 1916 pendant la guerre. Ségalène est rentré depuis août 1914 en France du fait de la déclaration de guerre et donc pendant la guerre, même s'il travaille comme médecin, il va assurer l'édition de peinture et correspondre avec son éditeur Georges Cresse qui avait déjà assuré la deuxième édition de Stèle en 1914. Donc il va sans cesse correspondre et même batailler, on peut dire, avec son éditeur pour, malgré les conditions difficiles de la guerre, manque de papier, etc., obtenir de publier une œuvre, certes grand public, certes moins luxueuse, moins sophistiquée que ne l'était Stèle, qui avait été conçue en Chine à la manière chinoise d'un livre chinois, mais cependant une œuvre avec qui réponde à toutes ses exigences, à savoir typographie, choix du papier, couverture, mise en page. Il est vraiment soucieux de tout, extrêmement exigeant. Et je le répète, c'est la correspondance là avec son éditeur qui nous est conservée, qui permet de voir ce grand souci de Ségalène de rester maître de son œuvre jusqu'au bout, jusqu'à sa réception. Alors qu'il a, lui, échappe en partie. Il le sait, c'est le lot de toute œuvre. Hein. Une fois qu'elle est publiée, elle échappe à son auteur. Et Ségalène... nous donne l'impression, là encore à travers la correspondance, qu'il voudrait encore au-delà, après la publication de l'œuvre, maîtriser cette réception parce qu'elle ne répond pas à son attente souvent.
Ce qu'il avait fait un peu pour Dominique Leblanc, pour Stèle, où il l'avait fait, enfin Les Immémoriaux et Stèle étaient édités à compte d'auteur et Stèle en particulier en 1912 a été envoyé par lui à ses amis et c'est tout.
Donc ses lecteurs même, ils les choisissent.
Dans la correspondance justement, puisqu'on parle de Stèle, on suit un petit peu aussi la genèse de ce premier recueil important. Hein. Par exemple, à Claude Debussy, il écrit quelques mois avant « Ce sera un recueil de prose courte et dure dans le genre des deux ou trois que j'ose vous soumettre. J'y dirai toutes sortes de pensées miennes, vêtues de notions et d'habits archaïques chinois, mais dépouillées de toute chinoiserie. » Et puis, dans une autre lettre, un peu plus tard, il dit « La forme Stèle m'a paru susceptible de devenir un genre littéraire nouveau, dont j'ai tenté de fixer quelques exemples. Je veux dire une pièce courte, cernée d'une sorte de cadre rectangulaire dans la pensée et se présentant de front au lecteur et un peu plus loin. Mais dans ce moule chinois, j'ai placé simplement ce que j'avais à exprimer, qui était peut-être ce que vous envisagiez de lire Dominique Leblanc. C'est peut-être l'occasion de s'arrêter justement à ce recueil, à ce premier recueil, Stèle, et ce qu'il cherche lorsqu'il dit « J'y dirais toutes sortes de pensées miennes, vêtues de notions et d'habits archaïques chinois, mais dépouillées de toute chinoiserie, Muriel Détry. »
Ségalène n'a pas été le premier, en tant qu'écrivain, je veux dire, à se rendre en Chine et à être inspiré par la Chine. On pense bien sûr à Claudel, son contemporain, mais aussi aîné, qu'il admirait beaucoup. Mais
Claudel qui ne parlait pas le chinois.
Voilà, non. Même s'il admirait Claudel, il s'est rendu compte, dès qu'il l'a rencontré, en 1909, il lui a posé la question, que Claudel n'avait pas appris le chinois et n'avait pas une grande connaissance de la culture chinoise. Donc, ce que Ségalène pouvait faire par rapport à ses devanciers qui avaient pu écrire sur la Chine ou s'en inspirer, c'était proposer une connaissance de la Chine, pour parodier le titre de Claudel, nouvelle connaissance de l'Est, hein, qui soit véritablement fondée sur la civilisation chinoise telle qu'elle était, non pas telle qu'elle était perçue par les Occidentaux, hein, ça c'est l'exotisme chinois de son époque, mais telle qu'elle était en elle-même, telle qu'elle s'était conçue avec ses valeurs, ses principes, ses fondements, et pour ensuite en faire quelque chose de personnel, car il ne s'agit pas non plus de faire de l'érudition. Mais l'érudition est tout de même la base du travail de Ségalène. Il faut connaître ce dont on va s'inspirer pour ensuite le recréer et en proposer une vision forte, personnelle, qui sera celle de l'artiste.
En même temps, le choix de la Chine, j'imagine, n'était pas fortuit. Alors c'est vrai qu'il commence par la Polynésie, mais ça n'est pas son choix premier. Hein. Il aurait préféré déjà partir en Chine. Et lorsqu'il va apprendre le chinois avant de partir pour sa première expédition, il apprend aussi parce qu'il a déjà dans l'idée, par exemple, de pouvoir déchiffrer des stèles. Donc il projette déjà quelque chose, il anticipe déjà quelque chose, il a une attente déjà avant de connaître le terrain et la Chine à proprement parler.
Alors, l'écriture chinoise, c'est sûr, va jouer un très grand rôle dans la conception de Stèle. On peut dire que ça remonte peut-être à Mallarmé, qui lui ne s'était pas intéressé à l'écriture chinoise, mais à l'écriture égyptienne. Hein. La recherche d'une écriture poétique, donc pas seulement écriture, manière d'écrire, mais aussi style, forme poétique, d'une écriture poétique qui rende absolument nécessaire le poème, ou qui ne soit pas forcément mimétique au sens qu'elle ne reproduit pas les objets, les choses dans leur apparence, mais qu'il y a un lien nécessaire entre ce que le poème dit et la manière dont il le dit. Et l'écriture chinoise a représenté cet idéal pour Ségalène, dans la mesure où c'était une écriture idéographique, en partie pictographique, en grande partie idéographique, hein, qui a une valeur esthétique en soi, puisqu'on pratique l'art de la calligraphie en Chine, en association avec cette écriture, et une écriture donc qui dit toujours plus que ce qu'elle ne dit son signifiant. Il y a toujours donc un mystère, un au-delà, des suggestions que l'écriture va pouvoir offrir. Donc il y a là quelque chose de fixe, de conventionnel, car l'écriture chinoise est aussi fondée sur des conventions, mais qui permettent d'aller au-delà, de dépasser les apparences. Et c'est ce que nous propose Ségalène avec ses stèles. Hein. Ce sont des poèmes entourés d'un cadre fixe, avec un style hautain, enfin qu'on a pu qualifier de hautain, aristocratique. Et en même temps, quand on les lit, ces poèmes, ils peuvent intimider, ils peuvent paraître être une façade, une face qui tient à distance. Et plus on rentre dedans, plus on les analyse, ou plus on les savoure aussi, simplement, ou on les contemple, plus on découvre des strates de sens, de suggestions qui nous emmènent très loin et très loin de la Chine, en définitive.
Alors on en écoute justement une lecture.
Perdre le midi quotidien, traverser des cours, des arches, des ponts, tenter les chemins bifurqués, m'essouffler aux marches, aux rampes, aux escalades, éviter la stèle précise, contourner les murs usuels, trébucher ingénument parmi ces rochers factices, sauter ce ravin, m'attarder en ce jardin, revenir parfois en arrière, et par un lacis réversible, égarer enfin le quadruple sens des points du ciel. Tout cela, amis, parents, familiers et femmes, tout cela pour tromper aussi vos chères poursuites, pour oublier quel coin de l'horizon carré vous recèle. Quel sentier vous ramène, quelle amitié vous guide, quelle bonté menace, quels transports vont éclater. Mais, perçant la porte en forme de cercle parfait, débouchant ailleurs, au beau milieu du lac en forme de cercle parfait, cet abri fermé, circulaire, au beau milieu du lac et de tout, tout confondre, de l'Orient d'amour à l'Occident héroïque, du Midi face au prince au Nord trop amical, pour atteindre l'autre, le cinquième, centre et milieu, qui est moi.
Oui, on le voit dans cette stèle, Ségalène transpose la conception de l'architecture chinoise, de la cité interdite, hein, avec une série d'enceintes et un centre secret qui est le centre du pouvoir, mais tout cela est... Il se le réapproprie pour parler du mystère de l'être, finalement, qui lui aussi a autour de lui tout un monde, mais qui a un centre secret qui reste inatteignable.
Lecture qu'on entendait, je précise, hein, que c'était la voix d'un autre poète, lecteur, grand lecteur de Ségalène, qui est Gérard Massé. C'était pour Poésie ininterrompue, en janvier 77, hein, pour être précise. Et pendant que nous l'écoutions, je voyais Morissette Berne le dire de tête, le formuler de tête. Hein. Et alors là, je m'adresse plus particulièrement à votre formation initiale, hein, qui est donc celle d'archiviste paléographe. Hein. Oui. C'est ça, le terme, exact.
C'est consacré aux élèves qui sortent de l'école des Chartes, qui savent lire les écritures anciennes.
Alors, et qui donc savent lire également les stèles, hein, de Victor Ségalène. Peut-être un mot justement sur la façon dont se présente. C'est important parce que les stèles, c'est aussi et d'abord peut-être une forme.
Chaque stèle a énormément d'avant-textes. Donc c'est un des recueils les plus travaillés, énormément d'avant-textes, avec une préface assez extraordinaire sur la, bah, sur sa volonté, sur ce qu'il veut faire dans Stèle, avec un goût prononcé pour l'architecture, puisqu'il parle de faire des kiosques, il y a des mots d'architecture, on sent en lui quand même un peu l'archéologue qu'il sera plus tard. Et ce recueil de Stèle, il n'était pas relié, pour une raison que nous n'avons pas comprise, parce que les peintures étaient reliées à la chinoise, le Fils du Ciel, beaucoup d'œuvres étaient... Cela n'était pas relié.
Relié à la chinoise, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire en cahier cousu, avec de la soie chinoise, et certains dans un étui magnifique qui a dans les revers des peintures, de la soierie ancienne. Donc à la Bibliothèque nationale, où à l'époque on reliait tout, on avait eu l'idée, en accord avec Annie Joly-Ségalène, de les relier également à la chinoise, c'est-à-dire en les cousant en des petits cahiers. Et mais ce qui était le plus fascinant, c'était la façon dont chaque stèle était travaillée, avec des fois 10 étapes pour arriver à la perfection.
Lorsqu'il parle de moule, hein, chinois,
Le moule chinois, c'est la stèle elle-même qui est une pierre gravée. Et lui, il dit j'y mettrai toutes sortes de mes pensées, je crois.
Dans ce moule chinois, j'ai placé simplement ce que j'avais à exprimer.
Ça n'a rien. Et il dit également les stèles chinoises sont la plus ennuyeuse littérature. Et c'est quelque chose, c'est des décrets, des choses sans intérêt. Mais moi, j'ai choisi cette forme pour y placer, dépouillée de toute chinoiserie. Et quand il écrit au soir de chaque étape pendant le voyage de 19 avec Gilbert de Voisin écrit en ce qui deviendra écrit en Chine, et lui, briques et tuiles, et il laisse entendre qu'écrit en Chine, ça sera la plus ennuyeuse des proses.
Alors, on peut ajouter peut-être que, outre la forme de la stèle, le rectangle, hein, qui reproduit le monument qu'est la stèle, et que Ségalène donc va reproduire sur la page, et dans le rectangle dans lequel il va placer son poème, qui est une prose relativement courte, il y a, et c'est ce qui a le plus étonné et parfois provoqué des contresens sur l'œuvre de Ségalène, il y a une épigraphe en chinois, avec des caractères chinois, qui a pu faire croire à certains premiers lecteurs qu'il s'agissait de traduction de ce texte chinois.
Et il s'en défend dans ses lettres, en particulier, je crois, une lettre à Jules de Gautier.
À Jules de Gautier.
Non, ce ne sont pas des traductions que j'ai lues.
Alors, quand on peut lire ces épigraphes chinoises, elles ont été traduites maintenant, on s'aperçoit que le plus souvent, elles viennent parfois de textes chinois anciens, des expressions, des proverbes, une phrase que Ségalène a empruntée, mais elles peuvent être aussi créées par Ségalène de toutes pièces, et souvent elles reproduisent, enfin doublent en quelque sorte, le titre français, ou alors une partie, une phrase, une expression du poème lui-même. Autrement dit, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas forcément une source à chercher. Il y en a une parfois, mais pas systématiquement. Et avec ses caractères, Ségalène veut simplement, encore une fois, dérouter son lecteur, hein, ou lui faire croire, puisque le lecteur n'est pas censé lire le chinois et connaître la traduction de ses inscriptions, lui faire croire à un sens au-delà du sens. Mais c'est une invitation à lire la stèle en français, le texte français de Ségalène, texte poétique, comme on pourrait lire l'écriture chinoise, hein, comme une écriture donc mystérieuse, une écriture avec un sens au-delà du sens qu'il faut sans cesse rechercher, une invitation donc à une lecture exigeante aussi.
Exigeante et finalement, comme vous le disiez, Muriel Détry, loin de la Chine, hein, c'est peut-être aussi qu'il faut. Ah, je vois que Maurice Edberne est en train de chercher quelque chose.
C'est la lettre à Gautier.
Ah oui.
C'est seulement de m'exprimer que j'ai tenté là-dedans. Je dois dire que l'exotisme m'a beaucoup facilité la tâche en me permettant non pas de sujet, je les tiens en défiance, mais une forme, des cadres, des décors nouveaux. Un pas de plus et la stèle se dépouillerait entièrement pour moi de son origine chinoise pour représenter strictement, précisément, un genre littéraire nouveau. Il est possible que plus tard, dans une très longtemps, je donne un nouveau recueil de stèles, lesquelles n'est de la Chine, pas même le papier.
Alors justement, à propos de cet exotisme renouvelé, on écoute Édouard Glissant.
Le caractère original de Ségalène est que dans sa recherche de l'autre, de l'ailleurs, il ne verse pas dans ce qu'on pourrait appeler la sauvagerie, au sens rimbaldien du terme. Il ne part pas simplement pour s'opposer furieusement à ce qu'il est. Il cherche un équilibre, une stabilité, une connaissance. Le côté original de Ségalène, c'est qu'il ne cherche pas cet équilibre dans ce qu'il appelle le même. Il le cherche dans ce qu'il appelle le divers. Il a donc été un des premiers dans la pensée occidentale, tant sur le plan de la poésie que sur le plan de la spiritualité, à essayer systématiquement d'être en même temps le même et l'autre. Et en ce sens, Ségalène est un jalon absolument fondamental de la pensée occidentale contemporaine.
La voix d'Édouard Glissant, donc au micro de Marlène Ospy, c'était dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture en 1981. Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous réagit à ce qu'on vient d'entendre. Alors, bien sûr, Ségalène anti-Loti, anti-Pierre Loti, ou voilà, pour faire vraiment très court. Présenté là par Glissant comme étant finalement aussi anti-Rimbaud, en tout cas dans son rapport à l'ailleurs. Alors non, ça paraît évidemment extrêmement un gros contresens que je suis en train de dire, dans la mesure où Rimbaud était très très important pour Ségalène. Il a écrit sur Rimbaud, ça a été une figure vraiment qui revient d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, dans la correspondance. Mais en tout cas dans son rapport à l'ailleurs, au lointain, où est-ce que vous y voyez Alors, lien à la différence de Glissant.
On peut peut-être évoquer ici la pensée de Ségalène. Hein. Il a, parmi ses œuvres laissées inachevées, laissé un ensemble de notes sur l'exotisme qui ont été publiées donc sous le titre « Essai sur l'exotisme ». Mais voilà, l'ensemble des notes manuscrites mériterait encore une nouvelle édition, peut-être avec toutes les notes, parce que des choix ont été faits. Et dans ses notes sur l'exotisme, Ségalène essaye de définir ce qui sera sa philosophie, son esthétique en tant qu'artiste, à savoir aller vers l'autre, ce qu'il appelle le divers, hein, ce qu'on serait tenté d'appeler l'altérité aujourd'hui, ou l'autre, comme on dit souvent avec une majuscule, hein, ce qui n'est pas soi, ce qui est différent de ce que l'on connaît, de ce qui nous fonde, aller vers l'autre, le comprendre, d'où l'apprentissage du chinois par exemple, de l'intérieur, mais lui laisser aussi une voix et se mettre à la place de l'autre pour se voir aussi à travers les yeux de l'autre. Il y a une sorte de retournement là, de bascule que fait Ségalène parmi les premiers, mais qui sera ensuite inspirera beaucoup l'ethnographie, l'ethnologie, disons. C'est la capacité donc à faire parler l'autre en tant qu'il est un sujet. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, parce que dans l'exotisme traditionnel, l'autre est un objet d'admiration, d'amusement, de divertissement, de dépaysement. Alors que pour Ségalène, l'autre, donc, a une dignité en soi, est un sujet qui interpelle, qui regarde aussi le voyageur. Donc il y a vraiment un retournement du regard qui est fondamental et qui va énormément inspirer la pensée, on va dire postcoloniale, la pensée de l'ethnologie, mais qui aujourd'hui est à nouveau interrogée, parce que aujourd'hui certains penseurs en viennent à s'interroger sur la légitimité de cette entreprise de faire parler l'autre. Quand bien même on tente de se décentrer, est-ce que ce n'est pas une appropriation de l'autre qui peut être discutable, hein, ce n'est pas la même chose que de véritablement laisser la place à l'autre, hein, c'est de prendre sa place. Donc il y a des débats actuellement, et le colloque de Cerisy a posé ces questions. Toute une partie est consacrée à la réception qu'on fait aujourd'hui de l'exotisme selon Ségalène, puisque Ségalène a redonné un sens nouveau à ce mot exotisme, hein, en disant que c'est la faculté, hein, d'appréhender, d'apprécier, de savourer le divers, l'autre.
Des épigraphes antiques, hein, de Debussy, composé en 1914, hein, comme on compose une sorte d'antiquité fantasmée. Ségalène est alors en Chine, hein, pour la grande mission archéologique, hein, avec des voisins et l'Artigue. Mais il correspond à ce moment-là encore avec Debussy, il correspond avec lui en toute admiration, j'allais dire, hein, depuis 1906. Hein, c'est lui qui va demander à le rencontrer, qui va lui proposer il y aura deux projets, hein, de livret d'opéra. Un premier, Siddhartha, que Debussy va finalement refuser. Et puis un autre autour d'Orphée, qui finalement échouera lui aussi. En tout cas, la collaboration échouera, mais donnera lieu à une correspondance riche, nourrie, dans laquelle il parle aussi beaucoup de sa littérature, à lui. On parlait à l'instant, toutes les trois, de l'exotisme. Hein. Alors évidemment, une heure n'y suffirait absolument pas, hein, de l'exotisme tel que Ségalène l'aurait renouvelé, redéfini, remodelé. Vous parliez de l'autre, Muriel Détry, on évoquait les limites de cet autre, et je pensais à cela aussi, car en Chine, Ségalène, finalement, et on le voit dans sa correspondance, semble assez peu intéressé par les gens qui s'y trouvent, c'est-à-dire que ce qu'il regarde, lui, c'est quand même beaucoup l'architecture, les monuments, les tombeaux, les paysages, mais rarement ce qui vit.
Alors oui, ça, c'est ce qu'on a pu parfois, ou ce qu'aujourd'hui on voit reprocher à Ségalène, hein, c'est ce désintérêt, on va dire, cette indifférence à en apparence, hein, à travers son œuvre au moins, à la Chine réelle et la Chine en transformation, puisque la Chine qu'il connaît, lorsqu'il arrive en 1909, on est dans les dernières années de l'Empire Mandchou, conçu sur le modèle de l'Empire chinois, Han, hein, qui va s'effondrer en 1911 avec la révolution de fin 1911 qui donnera lieu à la fondation de la Première République chinoise en 1912. Or, ces événements, Ségalène y assiste, l'y suit forcément, et on va en retrouver des traces dans son œuvre René Leys, hein, où on a affaire à un narrateur, un personnage qui mène une enquête sur les traces du dernier empereur, mort en 1908, Quang Xu, et qui va mener son enquête donc dans le contexte de cette révolution chinoise. Donc ces événements ne lui sont pas étrangers, mais c'est vrai qu'il les désapprouve, que la Chine qu'il recherche, qu'il intéresse, est une Chine ancestrale, une Chine, on peut même dire, mythique, une Chine impériale, fondée sur une cosmogonie, sur une conception des rapports entre le ciel, la terre et l'homme, et avec une fonction très importante dévolue à l'empereur qui assure les rapports entre la terre et le ciel. Et l'empereur est un peu, pour Ségalène, une image finalement de l'artiste, hein, puisque dans ses stèles, très souvent, il fait parler une figure impériale qui se confond avec la figure de l'artiste qu'il est. Donc il y a un certain, effectivement, désintérêt pour les individus, les Chinois qu'il pouvait côtoyer, hein, des domestiques, mais aussi des professeurs, puisqu'il a eu professeur de chinois. Mais bon, je pense qu'il faut replacer ça aussi dans son époque. À cette époque, il n'y a pas de relations de personnes dont on pourrait dire qu'elles ont entretenu des relations amicales, d'égal à égal, entre occidentaux et chinois. Hein. Il y a véritablement une difficulté là à rentrer dans la société chinoise qui fait que Ségalène va, comme beaucoup donc de ses contemporains, y rentrer plutôt par le biais de l'intérêt pour la culture, l'archéologie, l'histoire, la littérature, les arts.
Une certaine culture, hein, parce que les parents peuvent être très sévères avec l'art bouddhique déjà. On considère que déjà ça s'est déjà dégradé à ce moment-là. Alors c'est peut-être moins vrai ce qu'on est en train de dire justement dans la correspondance où il est peut-être ou parfois même il se laisse aller à quelques descriptions, parfois, alors sans parler de pittoresque, parce qu'il ne faudrait pas exagérer non plus, mais quand même un petit peu dans les descriptions qu'il peut faire dans la correspondance, dans les correspondances notamment à sa femme, à Yvonne, hein, où il décrit véritablement aussi comme un journal de bord, comme un journal de voyage, jour par jour, ce qu'il voit, ce qu'il fait, ce qu'il rencontre. Dominique Lelong. Pointer du doigt quelque chose.
Oui, une lettre à sa femme. Ma bonne bien-aimée, belle journée que ma première journée de solitude, et comblée, tu vas voir à quel point. Je suis partie ce matin de Kiancheu, avec mon boy, mon mafou, un soldat, deux mules et un âne, laissant Jean et Augusto aux prises avec leur cheval ailé. Beau temps. Longue marche délicieuse. J'avais comme objectif le tombeau de Han Wuti, 140-87 avant Jésus-Christ, qui devait mener à un certain tombeau de Hokuping. Même époque où l'on signalait des chevaux et des hommes de pierre, disaient les textes chinois. Si je les découvrais, c'était du coup faire franchir 200 ans à la statuaire chinoise. Le problème était précisément celui-ci. Chavannes écrivait tout récemment. Les deux plus anciens documents de la statuaire chinoise sont les deux lions des Han postérieurs du Shantong et le lion ailé de Yacheu, découvert, etc. On ne connaît aucune statue antérieure à l'ère chrétienne. À 2 heures, le grand tumulus de Han Wuti découvrait à l'horizon. À 4 heures, après un galop sérieux à travers champs, j'arrivais à 100 mètres et apercevais un autre, plus petit, au pied duquel quelque chose ressemblait à un cheval. J'ai fait les derniers 100 mètres sans rien voir. J'arrive.
il y avait bien un cheval de pierre. De forme très archaïque, évidemment, ne ressemblant en rien aux clichés Ming et même aux chevaux Tang, scellés et bridés. Un cheval, les pieds écartés sur un bloc, puissant, massif. Je n'en demandais pas plus. Et pourtant j'ai trouvé davantage. Ce cheval écrasait un homme dont le bras gauche, crispé sur un arc, se dessinait fortement, dont les genoux luttaient contre le ventre du cheval, dont les orteils, nus, s'écartaient contre la queue formant pilier postérieur, dont la tête, enfin, énorme, poilue, ressortait entre les pieds de devant, la barbe écrasée par le poitrail. Tu vois combien ceci tenait plus que tout les promesses. En 10 secondes, j'ai éprouvé ceci. Découverte d'une œuvre d'art plus antique et originale que toutes celles connues à la Chine. Profonde émotion à laquelle tu es venu tout d'un coup te mêler, évoquée avec une puissance inattendue, mêlée à ce que je voyais, projetée à côté de moi, regardant par tous mes yeux qui en avaient des larmes, toi, ma bonne évoquée, qui a vu tout ceci, je te le jure, comme je l'ai vu, et qui le voit pour toujours maintenant, et qui a peut-être quelque émotion dans les yeux. Ensuite, j'ai passé des heures à dessiner, à regarder, à palper, à photographier, hélas, puisqu'il le faut.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Ce que vous venez de nous lire, Dominique Lelon, nous ramène à ce dont nous parlions à l'instant avec Muriel Détry, justement, hein, sur cette Chine mythique, ou en tout cas cette Chine dont il recherche l'archaïsme. On évoquait en tout début d'émission Peinture, hein, ce recueil paru en 1916, hein, je crois qu'il termine de l'imprimer en juin 1916, hein, qui va paraître chez Cray, où il écrit à propos de ses peintures, il écrit « Ces peintures imaginaires et chinoises s'excusent de ne contenir aucun récit de guerre, aucune allusion au temps présent, écrites seulement pour être vues. Elles ont composé ce livre profondément inactuel. Hein. » Comment est-ce qu'il faut entendre cet inactuel, Muriel Détry?
Alors, c'est d'abord parce que ce livre de peinture, c'est-à-dire de textes littéraires évoquant, recréant par les mots des peintures chinoises, ce livre donc évoque des peintures précisément chinoises, hein, ce qu'annonce d'emblée la préface, ce sont des peintures chinoises, etc. Mais donc il y a un dépaysement profond dans la mesure où on est transporté dans un univers pictural qui est encore très mal connu à l'époque, hein, autant la peinture chinoise lorsqu'on l'évoque aujourd'hui, évoque pour nous beaucoup d'images. Autant à l'époque de Ségalène, c'était très, très, oui, très mal connu. Ségalène a véritablement, lui, découvert la peinture chinoise en Chine.
En même temps, ça ne veut pas dire grand-chose lorsqu'il dit peinture chinoise. Et j'imagine que c'est volontairement aussi qu'il maintient un tel flou. C'est-à-dire la peinture chinoise,
alors,
ça veut tout et rien dire.
Ce terme, absolument tout. C'est-à-dire les peintures, souvent aujourd'hui, on envisage par peinture chinoise la peinture de paysage, hein, qui est une des thématiques de la peinture chinoise la plus prisée des peintres lettrés. Mais il intègre aussi dans son recueil peinture des peintures sur lac, sur porcelaine. Il va même évoquer un tapis. Il va évoquer aussi des peintures qu'il a pu contempler ou qu'il sait qui existent dans les tombeaux, hein, des briques historiées comme on en faisait dans les tombeaux chinois qui reproduisent des scènes du vivant, par exemple des empereurs, enfin des personnages des fins. Donc, peinture pour lui regroupe absolument toutes les représentations, tout ce qui est spectacle. Mais donc, si ce livre est inactuel, c'est d'abord à cause de cette référence chinoise. Mais c'est aussi parce que c'est un livre qui va évoquer, et je l'ai je l'ai compris assez récemment, alors que j'ai travaillé pendant longtemps, j'ai commencé il y a plusieurs décennies sur ce texte peinture. J'ai compris assez récemment, grâce à des travaux qui ont été faits ces dernières décennies et qui m'ont moi-même révélé cet univers, que peinture s'inspirait aussi énormément des arts du spectacle de son temps. Dans cette œuvre, Ségalène prend la position d'un bonimenteur qui harangue son lecteur. Il dit à ce public, vous êtes là, vous attendez, et il somme son public de rentrer dans son univers et de visualiser les images que disent ces mots. Or, cette attitude du bonimenteur, elle est celle de beaucoup de forains, de spécialistes des arts du spectacle de son temps, qui dans les foires, dans les théâtres populaires de Paris ou d'ailleurs, haranguent aussi leur public pour leur faire voir des féeries. Et il y a un art à l'époque de Ségalène, et je m'en suis rendu compte peu à peu en creusant cette question et en découvrant ce qu'était cet art à cette époque, c'est le cinéma naissant, ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma des premiers temps. Les spécialistes disent CPT, c'est devenu vraiment une étude en soi, que ce cinéma des premiers temps, qui était un cinéma muet, bien sûr, qui montrait des images que Ségalène donc a connues, car ça naît à son époque, pendant sa jeunesse, et ça se développe pendant qu'il mène sa vie d'adulte. Et ce cinéma donc propose des images, fait des projections, qui se gravent dans l'esprit du spectateur. Donc Ségalène va s'inspirer de ce cinéma pour amener son public, son lecteur, à visualiser, à voir, comme on le fait au cinéma, donc des spectacles vivants, hauts en couleur, animés, truculents, avec des scènes bougeantes, etc. Mais en même temps, la grande différence, c'est que toute cette inspiration on va dire populaire, qui font de l'œuvre peinture, avec cette forme du boniment, de l'adresse au lecteur, Ségalène la retourne, car lui, ce n'est qu'avec les mots qu'il offre ses spectacles. Lui n'a une entière confiance que dans les mots. Alors, on le voyait tout à l'heure dans la citation qui a été faite de sa découverte de la plus ancienne statue chinoise en Chine, c'est qu'il la recrée par les mots. J'ajouterais que c'est peut-être ça que fait le texte. La lettre aussi, c'est qu'elle recrée pour l'autre, bien sûr, pour partager par les mots ce qu'il voit, ce qu'il éprouve, ce qu'il découvre. Et pour lui, c'est fondamental. En revanche, il dit à la fin de la lettre, et je la photographie aussi, hélas, je crois, hélas. Parce que la photographie ne va être qu'une reproduction mécanique pour lui du réel. Et le cinéma est aussi ça pour lui à l'époque. C'est un cinéma qui reproduit le réel, qui est mimétique, enfin c'est comme ça qu'il le conçoit, alors que lui, par les mots, donc peut aussi montrer des spectacles, déployer des féeries, faire des découvertes, faire entendre l'inouï, mais uniquement par la magie des mots. Ségalène est fondamentalement un écrivain, enfin se veut un spécialiste de la lettre, du mot et de sa magie.
Ce qui ferait donc Muriel Détry mentir Ségalène lorsqu'il parle d'un texte inactuel, votre lecture à vous qui le replace au fond dans son temps, ce qui est assez rare, parce qu'on a plutôt l'habitude de parler de Ségalène comme étant
c'est par rapport au contexte de la guerre, cette guerre ça a bien été évoqué par Corentin Ségalène, arrière petit-fils de Ségalène, dans une communication au colloque de Cerisy. Corentin Ségalène a évoqué, recréé ce contexte de la guerre, de la première guerre, la grande guerre que Ségalène a vécu, donc en partie sur le front, parce qu'il est allé sur le front des Flandres en tant que médecin, donc il a eu affaire donc non pas aux combats eux-mêmes, mais aux effets de ces combats, aux conséquences des destructions massives par des armes modernes qu'on n'avait jamais connues. Donc il a vraiment eu des spectacles effrayants. Donc il y a aussi du spectacle à cette époque, mais il est sombre, il est noir, il est démoralisant. Alors que les spectacles qu'il propose donc dans peinture sont des spectacles colorés, vivants, des paysans. Amusant parfois aussi. Donc c'est très inactuel parce qu'on est dans une époque où l'issue de la guerre est incertaine, où le front pour beaucoup n'existe pas, mais pour Ségalène a eu une réalité très forte. Et donc
qu'on peut suivre d'ailleurs dans la correspondance, c'est-à-dire on voit bien le changement de ton à partir de 1915, de milieu 1915. Oui.
Je pense que le summum de sa vie, c'est la réception du télégramme annonçant la guerre pendant la mission de
14.
Et puis après.
D'autant que le projet est d'aller jusqu'au Tibet.
Jusqu'au Tibet, c'est ça.
Et qu'il renonce au Tibet dans ce projet.
Un cavalier sorti
donc là, il y a une rupture.
Ah, c'est ça que dit l'article, un cavalier sorti de la brume qui apporte un télégramme et il s'arrête sur la route du Tibet. Et il écrira plus tard Tibet, parce que c'est comme s'il y allait, un poème Tibet.
Muriel Détry, Dominique Lelong, Mauricette Berne, merci à toutes les trois. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la conclure entre vous. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Vous savez, quand il avait fait le livre, une page de type, il parle de la... Et dans tout cela, le texte, le livre enfin, la fin, et dans tout cela, tout le fondamental de la transsubstantation artistique. C'est une mystique, hein, c'est un credo.
Oui, il y a une volonté démiurgique chez Ségalène. Il recrée un univers, un microcosme qui est l'œuvre et qui vient du monde parce qu'elle est née du contact avec le monde, de l'affrontement avec le divers, mais qui devient ensuite un monde en soi que chacun, c'est ce qu'il dit par exemple dans peinture, peut pénétrer, peut parcourir, peut faire sien, où il peut circuler. C'est ce mouvement constant qu'on a dans la vie de Ségalène entre le monde et l'œuvre, le monde extérieur au créateur, que le créateur s'approprie et il en recrée un monde qu'il nous laisse ensuite, dont on dispose nous aussi, lecteurs, et que l'on peut faire sien. Et ce mouvement sans cesse peut être reconduit de l'imaginaire au réel, du monde à l'œuvre, de l'œuvre au monde. Donc il y a une pensée très vitaliste, dynamique chez Ségalène. Et pas du tout intellectuel, parce que le contact avec le monde, pour lui, est fondamental. Et on l'a vu à travers tout ce qu'il a vécu en Polynésie, en Chine, dans ses relations familiales, amicales, tout cela l'a sans cesse nourri, mais pour donner naissance à autre chose, une œuvre qui elle-même est un monde et qu'il nous laisse.
Moi, je suis fascinée par les stèles, la première édition de stèles, c'est magnifique, c'est et qui n'était pas commise à la vente, comme il disait. C'était une édition pour ses amis. Et 81, c'était des nombres de marge du temple du ciel.
De dalle de la terrasse du temple du ciel, 9 par 9.
Oui, pour lui, Stèle est un microcosme, un monde qu'il a recréé et qui contient le monde entier, avec toutes ses directions, avec toutes ses relations.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Olivier Dupré, à la préparation, Thierry Beauchamp, et à la réalisation, François Connac. Je rappelle qu'il reste quelques jours seulement pour aller voir la salle consacrée à Ségalène dans l'exposition Ombre de Chine au musée Guimet, et que le détail des actualités des invités du jour, c'est sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.